Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 500 milliards d'euros pour relancer l'économie en Europe. À crise inédite sanitaire et économique, Emmanuel Macron et Angela Merkel proposent un mécanisme jamais vu, une mutualisation des dettes des pays européens pour aider les régions les plus fragilisées. Vous l'entendrez dans ce journal.
Et puis à suivre également la levée de l'interdiction des réunions de culte.
Les catholiques, juifs et musulmans satisfaits en France, ils restent tout de même prudents face à la réaction du gouvernement. Aux États-Unis, Donald Trump menace de couper les vivres à l'OMS. Il révèle également prendre de la chloroquine à titre préventif et ce, contre l'avis des autorités sanitaires dans son pays.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, génocide rwandais, qu'attendre de l'arrestation de Félicien Kabouga ? On posera la question à l'historienne Hélène Dumas.
Mais tout d'abord, je vous propose de réentendre une voix profonde, celle de Michel Piccoli. Le comédien est mort à l'âge de 94 ans. On l'a appris hier, lui qui avait été révélé par Le Mépris de Godard en 63, formant un couple légendaire avec Brigitte Bardot. Il avait incarné les séducteurs bouleversés par les choses de la vie chez Sauté, 60 ans de carrière et des personnages sombrement extravagants, grand brun, aux sourcils broussailleux. Charme discret, Michel Piccoli avait tourné pour Buñuel, côtoyé Mastroianni dans La Grande Bouffe, incarnant encore un pape en proie au doute dans Habemus Papam, son dernier grand rôle à l'écran, c'était en 2011. Michel Piccoli, pudique dans la vie, il cherchait également à s'effacer derrière ses rôles, comme il le confiait à Laure Adler, c'était dans À voix nue sur France Culture.
Si on est acteur et que si on oublie complètement qu'on est acteur, qu'on ne fait qu'être le haut-parleur de metteur en scène écrivain, ou de l'écrivain, et eh bien, il n'y a plus besoin de jouer la comédie. On peut être simplement le diseur, vous comprenez ? On peut être le diseur, le haut-parleur. J'aime bien être le haut-parleur de textes merveilleux, mais sans doute qu'il faut avoir été capable d'acquérir le talent de connaître, de découvrir le secret profond du créateur, que sont ou le réalisateur ou l'auteur. C'est-à-dire, oublier complètement que je suis acteur et simplement dire les mots qu'il y a à dire.
Michel Piccoli dans À voix nue à retrouver en une de francecultures.fr. Comédien énigmatique autant que pudique, producteur, scénariste, réalisateur également, il était indissociable de ses engagements, ancré bien à gauche, compagnon de route du Parti communiste, puis à partir de Mitterrand et pendant 40 ans fidèle aux socialistes Yael Gauz.
Chaque herbe de ce champ que je traverse pour monter la roche de Solutré et fleurs.
Printemps 1976, sur les images de ce documentaire montrant Mitterrand en plein pèlerinage politique, la voix de Michel Piccoli.
De là, j'aperçois mieux ce qui ne bouge pas.
Et ce qui ne bougera pas, ce sont ses convictions de gauche, pas encartées au Parti Socialiste, mais omniprésentes dans les meetings de campagne, comme en 1995 avec Lionel Jospin.
Plus le monde se bouleverse, plus on n'y comprend rien, plus je comprends que je voterai toujours à gauche.
2012 aussi avec François Hollande au stade Gerland à Lyon.
Monsieur Sarkozy a droit d'être président de la République pendant 5 ans. Il n'y en a plus pour longtemps.
Michel Piccoli, préoccupé par la montée de l'extrême droite en France, aux côtés de SOS Racisme dans les années 80, il soutient le théâtre de Château-Vallon en 1997 contre le maire FN de Toulon.
Il faut se battre à mort contre le Front National.
Toujours là, quand on avait besoin de lui, se souvient l'ancien ministre socialiste Jack Lang.
Pour les intermittents, pour les sans-papiers, il était très lié à ma fille Valérie qui a disparu depuis, comédienne, militante. Elle l'a embarqué à Saint-Bernard avec Emmanuel Béard.
Passionnément de gauche, mais sans naïveté, en 2009, il avait même pétitionné contre le Parti Socialiste, à qui il reprochait de ne pas suffisamment défendre les droits d'auteur.
Michel Piccoli est mort, je le rappelle, à l'âge de 94 ans. France Culture lui rend hommage dans Les Matins avec vous, Guillaume Erner, et la journaliste Anne-Sophie Mercier, auteure de Piccoli derrière l'écran, entretien à partir de 8h35. Et puis France Culture rediffusera dimanche à 21h Gainsbourg, poète majeur, une lecture à 3 voix, dont celle de Michel Piccoli.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. La France et l'Allemagne proposent un plan de relance européen de 500 milliards d'euros pour faire face aux conséquences économiques de la crise liée à la Covid-19.
L'argent ira aux régions et aux secteurs les plus touchés par la crise. Le financement serait assuré par des emprunts de la Commission européenne sur les marchés. Un mécanisme inédit et ambitieux, a souligné hier Emmanuel Macron.
Sur la base des traités existants, pour la première fois ensemble, ce que nous proposons aux 27 pays membres, c'est d'une part de décider, tous ensemble, d'aller lever une dette commune sur les marchés et d'utiliser ces 500 milliards d'euros, dette qui aura vocation à être remboursée, comme l'a rappelé Madame la Chancelière, de l'utiliser pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise. Et donc d'accepter de vrais transferts, une vraie stratégie commune pour compléter notre budget européen.
Emmanuel Macron qui a ouvert donc hier avec la chancelière allemande Angela Merkel la voie à une mutualisation des dettes sur le continent européen. Ces 500 milliards d'euros ajoutés aux 540 milliards déjà adoptés par les ministres des Finances pourront aussi servir à rénover le secteur hospitalier en France. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire, alors que son collègue en charge de la santé Olivier Véran a lui annoncé ce week-end qu'il préparait un nouveau plan pour l'hôpital avec à la clé des augmentations de salaire. Mais ce n'est pas la seule revendication des syndicats, comme le rappelle Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et délégué CGT.
C'est très important de demander l'annulation des plans de restructuration. Or, on voit bien, en particulier dans les hôpitaux psychiatriques, que les réorganisations se poursuivent, c'est-à-dire des unités Covid ont été mises en place, et là, on ferme ces unités Covid, mais on ferme des lits de psychiatrie. Voilà, alors que nous avons de nombreux besoins. Et pour l'assistance publique hôpitaux de Paris, aujourd'hui nous avons besoin de lits de rééducation pour les patients qui sortent de réanimation. Et la politique menée par notre direction générale Martin Hirsch ces dernières années, sous injonction du gouvernement, aboutit au fait que 700 lits de rééducation à l'assistance publique sont fermés, faute de personnel. 700 lits, soit 20% des capacités. Donc la question n'est pas simplement les augmentations de salaire, c'est un tout. La première revendication aujourd'hui, c'est bien les embauches pour soulager la charge de travail.
Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, joint par Margot Delpierre. Le Conseil d'État donne 8 jours au gouvernement pour lever son interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte en ce début de déconfinement. Une victoire hier pour les fidèles, pour les associations et pour le parti politique qui avait saisi le juge des référés, les précisions d'Antoine Marette.
Le Conseil d'État juge cette interdiction générale et absolue disproportionnée. Disproportionnée car d'autres rassemblements de moins de 10 personnes sont possibles. Cette interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, selon le juge des référés. C'est donc une sorte de victoire de David contre Goliath, avec dans le rôle de David le président du très confidentiel Parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson.
La position du gouvernement était intenable depuis le début. On l'a bien vu, les textes sont écrits avec une légèreté qui est assez rare quand même pour des textes de cette importance et dans une période d'une telle densité. On a bien senti à l'audience que la représentante du gouvernement qui était en mission et elle a parfaitement fait son métier, mais c'était très très difficile pour elle de démontrer le bien fondé de la position du gouvernement. Et le juge a essayé de trouver dès l'audience un certain nombre de portes de sortie qui pourraient constituer une position équilibrée. Donc je ne suis pas complètement surpris, même si il faut toujours être méfiant à l'égard des impressions d'audience, mais globalement, l'ordonnance du juge va dans le sens de ce que nous avons échangé et débattu vendredi après-midi devant lui au Conseil d'État.
Le gouvernement a donc 8 jours pour modifier le décret du 11 mai et lever cette interdiction générale et absolue de célébrer des cultes.
Le déconfinement signe par ailleurs le retour de certains adultes handicapés dans leur structure d'hébergement. Illustration, près de Bordeaux, dans la résidence Marie-Thalée, qui accueille en temps normal 70 personnes. La moitié d'entre elles étaient rentrées dans leur famille ces 2 derniers mois afin de soulager l'équipe des éducateurs qui était en sous-effectif chronique en raison de la crise sanitaire. Le retour à la normale se fait désormais progressivement à Rachelegel.
Chaque jour, 1 à 2 résidents reprennent le chemin du foyer qui a forcément un peu changé. Charlotte Farina, la psychologue, insiste sur les mesures barrières qu'il faut détailler, comme avec ses amoureux.
Ils ont eu quelques contacts par téléphone, mais pas plus. Et du coup, là, ils reviennent tous les deux le même jour. Et puis, eh ben, on doit leur expliquer que bah, par mesure de précaution, pour le moment, bah, on va éviter peut-être de trop se faire de bisous, de trop se faire de câlins, de trop se donner la main, d'être trop proche. Eh ben, c'est pas évident.
Tout comme se laver les mains, geste qui n'est pas si simple quand on souffre par exemple d'un trouble de l'initiative qu'on n'y pense jamais. Et puis les activités aussi ont changé dans le centre, plus de sport en extérieur, sourit Alexandra Dalgobo, la directrice.
On a la chance d'avoir un terrain de pétanque sur l'établissement, donc ils se sont mis de manière un peu plus intense à la pétanque. Bêtement, on n'a pas assez de salles d'activité pour permettre le respect de 4 mètres carrés par résident dans un espace.
Malgré tout, beaucoup d'activités individuelles, artistiques, ludiques, cognitives sont maintenues au mieux. Et dans l'ensemble, le confinement, comme le retour des résidents, s'est plutôt bien passé.
On a eu une atmosphère relativement calme. On aurait pu craindre beaucoup plus de décompensation au niveau psychique. Et finalement, le fait de les informer sans les alarmer, ils ont bien géré les choses et c'est très certainement aussi dû au fait qu'ils n'ont pas forcément tous les capacités de tout comprendre et de tout intégrer. Donc ça les a préservés d'une certaine angoisse, mais c'est aussi malheureusement ce qui les empêche d'appliquer stricto sensu toutes les mesures barrières qu'ils devraient appliquer.
D'où la vigilance extrême de l'équipe qui guette le moindre signe de Covid chez ces résidents fragiles dont beaucoup ne savent même pas verbaliser d'éventuels symptômes.
Des émeutes de la faim au Chili, jets de pierres contre canons à eau et gaz lacrymogènes. Des habitants d'une banlieue pauvre de Santiago ont affronté la police hier pour protester contre les pénuries alimentaires alors qu'ils sont toujours confinés. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. Donald Trump menace de couper les vivres à l'OMS pour de bon si l'organisation n'engage pas de réformes pour faire face à la crise de Covid-19. Alors que les États-Unis ont franchi hier soir la barre des 90 000 morts, plus d'un 1,5 million de personnes contaminées. Donald Trump a également révélé qu'il prenait de la chloroquine à titre préventif contre l'avis même des autorités sanitaires de son pays.
Vous seriez surpris de savoir que beaucoup de gens en prennent, à commencer par les personnels soignants qui sont en première ligne contre le virus. À titre préventif, beaucoup de docteurs en prennent. Et moi aussi, j'en prends, oui, de l'hydroxychloroquine, une par jour depuis une semaine et demie. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ce médicament. Est-ce que c'est mauvais? Je vais vous dire, ça peut pas me faire de mal. Cela fait 40 ans qu'on l'utilise contre le paludisme, le lupus, donc je le prends à titre préventif. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'ici, ça a l'air d'aller.
Le président des États-Unis, Donald Trump, propos traduit par notre correspondant à Washington, Grégory Phillips. À suivre dans le journal de 7h30, la création d'un 9e groupe à l'Assemblée nationale, caillou dans la chaussure des députés de la majorité. Le temps de ce mardi 19 mai, marqué par de nouvelles averses dans le sud-est, ensoleillé partout ailleurs. Au meilleur de la journée, il fait entre 16 et 20 degrés près de la Manche, 22 à 27 partout ailleurs, Guillaume Hermé.
Merci Catherine Dutu.